Merci. Mais alors, moi, je voudrais remercier la BPA et donc le comité administratif, c'est ça, c'est comment tu dis le CA de nous faire confiance, de me faire confiance pour donner cette conférence. Je voudrais remercier aussi la communauté française et la ville de Bruxelles qui quand même m'a permis qui a établi mes horaires de manière à ce que je puisse suivre cette formation et qui m'a toujours fait confiance. J'ai rencontré des directions qui m'ont permis d'appliquer cette pratique et qui m'ont donné le matériel pour. Il y a même une directrice qui a fait casser un mur entre deux locaux parce que je trouvais que la salle qu'on me proposait était trop petite. Et donc, tout ça, petit à petit, ça a été établi. Et là, maintenant, je remercie aussi l'équipe des Pagodes qui me fait de plus en plus confiance, je pense, parce que je pourrais travailler de plein temps, je crois, aux Pagodes. Voilà. Merci. Merci bien.
Je démarre.
Vas-y, démarre.
Est-ce que vous m'entendez, là, tout au bout? Ça crie pas trop fort? Bon. Alors, ce qui est intéressant dans notre rencontre, je pense, Dominique et moi, c'est qu'on travaille finalement dans la même direction, mais avec des outils différents. Et comme c'est un petit peu le fil rouge de notre conférence de ce matin, c'est d'ouvrir et de collaborer. Mais forcément, il y a des choses que je vais plus reprendre dans ma pratique, des choses qu'elle va reprendre dans la sienne. Et puis, ce qui sera intéressant, c'est de voir, finalement, c'est très complémentaire. Et sur certains points, on a deux approches. Donc moi, je vais plutôt, parce que c'est ma formation de base, aller vers les définitions, ce qu'on sait aujourd'hui d'un point de vue développement neurobiologique, neurophysiologique. Parce que, voilà, il y a des recherches qui sont faites et qui sont publiées. Et puis, ce qui est riche ici, c'est tout l'apport qui va venir compléter ça, c'est-à-dire l'apport développemental, l'apport... comment
psycho,
on peut dire, psycho.
Psychomotricité, c'est vraiment ce psyché qu'on oublie.
Et... ensemble, voilà. Ensemble et pas opposé, complémentaire et pas opposé, et c'est même plus que complémentaire, c'est l'un qui enrichit l'autre, je pense. Donc, on va repartir, comment va-t-on organiser ça? Des définitions, recentrer nos champs d'application, recentrer de quoi on parle, amener de la théorie, c'est inévitable, un petit peu sur ce qu'on sait aujourd'hui de ces troubles instrumentaux d'un point de vue neuropsychologique, et puis des témoignages, et puis on essaiera quand même de vous faire peut-être, c'est difficile, vous êtes nombreux et ce n'est pas une situation de formation pratique, mais j'aimerais quand même vous faire vivre une ou deux situations pour vous mettre en situation que vivent ces enfants tous les jours. Parce qu'il n'y a rien de plus vrai que ce qu'on vit soi-même, hein, de toute façon, même si on n'est pas dans leur situation de stress. Mais malgré tout, vous verrez, c'est intéressant. Alors, dans un deuxième temps, Dominique développera sa partie plus spécifique et je terminerai, enfin, selon l'horaire, par la présentation. Alors, j'ai l'habitude, par boutade, d'appeler ça la partie Tupperware, c'est-à-dire que je viens toujours avec un tas de trucs... qui est difficile de vous montrer parce que vous êtes très, très éloigné, donc il y aura quelques photos. On expliquera que ce sera développé dans les séminaires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut déjà mettre en place qui n'est pas extraordinaire, mais qui peut déjà changer, si ce n'est pratiquement, symboliquement, l'approche qu'on a de ces troubles. Donc, si vous êtes prêts, on démarre sur la partie théorique. Tu peux avancer. Voilà, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est les troubles instrumentaux? Je pense que c'est pas une question de confusion, c'est une question de définition et d'entendement. C'est aussi une question de traduction, c'est-à-dire que vous avez des publications qui viennent des anglo-saxons, des publications qui viennent des parties francophones. Et donc, vous avez de temps en temps des confusions au niveau des termes. C'est pas très grave, parce que finalement, ce qui compte, c'est de travailler avec les enfants. Mais enfin, on va quand même essayer de... Ben voilà, le PowerPoint a disparu, il va revenir. Voilà, donc, la suivante. Voilà, alors évidemment, ce qui est au centre de tout, c'est est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? C'est-à-dire, est-ce qu'on vient au monde avec ces difficultés-là, et c'est comme ça, et c'est inscrit dans nos gènes, et voilà? ou bien est-ce qu'il y a des phénomènes environnementaux, contextuels, qui expliqueraient le développement de ces troubles ? Vous verrez qu'on n'arrivera pas à un consensus. Si, on doit arriver à un consensus, c'est sur la mixité, évidemment, hein, c'est complexe. Alors, je vous ai remis la... Je ne sais pas si vous connaissez Michel Habib, c'est un Français, médecin qui s'occupe, c'est le centre de son travail, des troubles instrumentaux, des troubles d'apprentissage. Alors, je vous laisse lire sa définition et puis je la commenterai. Ça y est ? Voilà, donc moi j'aime bien le mot instrument, je trouve que ça raconte beaucoup de choses. Les instruments, c'est notre boîte à outils, c'est ce qui va nous permettre d'apprendre, c'est ce qui va constituer notre pensée, tous nos actes cognitifs. Et je trouve que troubles... Alors est-ce qu'on peut vraiment distinguer les troubles instrumentaux des troubles d'apprentissage ? Et si oui, est-ce qu'on va mettre par exemple la dyslexie dans un trouble instrumental ou dans un trouble d'apprentissage ? C'est toujours l'éternel débat, mais vous verrez que finalement pour nous ça n'aura pas beaucoup d'importance puisqu'on va surtout se centrer sur la que faire ensemble pour que ces enfants se remettent sur leurs jambes et aient un peu de confiance en eux. Alors finalement le débat sur est-ce qu'on pourrait vraiment mettre la dyspraxie, est-ce que c'est plutôt un trouble d'apprentissage puisque la définition parle d'un trouble des gestes appris, est-ce que c'est un trouble instrumental, en tout cas moi, j'aime assez bien l'idée de l'altération spécifique, parce que ça va évidemment spécifier la définition de ça par rapport à des troubles plus globaux. C'est l'altération spécifique d'une fonction cognitive et qui est sous-tendue vraisemblablement par des problèmes d'organisation cérébrale. Mais vous verrez à quel point, tout au long de notre présentation, et ce sera certainement nuancé par Dominique, on va être très très prudent pour ne pas enfermer les individus là-dedans. Ça n'est jamais qu'un paradigme, ça n'est jamais qu'une théorie, ça n'est jamais que très culturel. Moi, j'insiste là-dessus souvent chez les enseignants et en formation, c'est que c'est notre manière de voir ces enfants et que ça n'est pas du tout universel. Mais bon, il faut bien un modèle. En tout cas, on est construit comme ça. Donc voilà celui sur lequel on travaille le plus actuellement. Alors, les neuropsychologues parlent aussi de troubles instrumentaux, troubles spécifiques d'apprentissage. On va aller un petit peu plus loin.
Alors, Daniel Flaget, qui a écrit un livre qui est magnifique, et qui travaillait ici à Bruxelles encore il y a quelques années, a écrit « Mal à être, mal à penser ». Vous allez voir que je m'appuie pas mal sur ce bouquin parce que je trouve que même si c'est peut-être une des auteurs qui date d'il y a le plus longtemps, mais qui était déjà, je trouve, tellement dans le juste. Pour elle, les troubles instrumentaux concernent toutes les aptitudes dont le développement concourt à l'exercice des fonctions cognitives au sens le plus large. Vous allez voir qu'elle revient après. Et alors, il y a Bernard Gibelot qui, lui, parle de pensée floue, le contenant de pensée n'étant pas suffisamment étayé. Les notions de temps, d'espace, les procédés de traitement d'informations peuvent être flous. Et donc, quand tout est flou, l'accrochage des apprentissages ne peuvent pas solidement se fixer. Et c'est ça. Et je crois qu'il y a moyen de suivre tous les cours en fondamental et même en supérieur, mais sans vraiment que les apprentissages s'ancrent dans soi, sans qu'on les retienne. Ils restent en superficie, sans faire ces apprentissages siens. Donc, Danielle Flaget, dont je vous parlais, elle compare cela au myope qui ne porte pas de lunettes. Il est dans le brouillard constant. Il a du mal à se situer. Il n'a pas conscience qu'il est dans le flou. Et il n'y a pas de réelle appropriation des processus cognitifs. Elle appelle ce processus ainsi, c'est le mode de l'à peu près. Alors l'enfant qui est atteint de troubles instrumentaux et qui est suffisamment doué, il arrive à faire tout son cycle scolaire sans que personne ne s'aperçoive quoi que ce soit. Sans que personne s'aperçoive qu'il n'a pas compris. Maurice Berger, auquel je ferai aussi beaucoup référence, et là, Enfin, vous verrez, donc il y a plusieurs auteurs où je vais faire pas mal référence, où les livres, vous les trouverez à la librairie qui est à l'extérieur. Je trouve que c'est des personnes qui ont écrit sur les troubles instrumentaux et qui sont remarquables, qui ont une autre approche. Donc, Maurice Berger, il a écrit « Troubles du développement cognitif de l'enfant ». Et il dit « Si l'image de soi ou la notion d'espace-temps sont entravées, cela peut traduire par des troubles instrumentaux. » Cette image de soi, elle est fondamentale. C'est l'estime de soi. C'est comment on se voit, comment on se ressent. Alors, où en sont les recherches psychodynamiques? Le bébé, il découvre le monde avec tous ses sens. Il arrive et voilà, il est là. Il y a d'abord la proprioception, il y a l'ouïe, il y a la vue, il y a l'odorat, et il y a le goût qui sont là et qui lui font découvrir le monde. Il passe d'une relation synchronique à une relation diachronique avec la fonction maternante. C'est-à-dire que quand il était dans le ventre de sa maman, tout était synchrone et toutes ses sensations étaient filtrées par le liquide amniotique. À sa naissance, il est là, tous les flux deviennent beaucoup plus importants et la réponse à ces flux ou à ces sensations prend un temps. Ça devient diachronique. Il y a un dialogue qui s'installe. Donc, le détour par une fonction maternante est indispensable à l'enfant pour donner progressivement forme et sens à toutes ces sensations et qu'elles puissent devenir perception. Et ce n'est pas uniquement par le langage, c'est tout le corps de la fonction maternante qui est en interaction avec l'enfant. Son tonus, son regard, ses expressions, son langage, son rythme. Maurice Berger nous dit « On apprend avec son corps, la manière dont il est touché, la curiosité dont il est l'objet, les actes qu'on le laisse accomplir, les rythmes qu'on lui propose, le fond émotionnel et le matériel sur lequel se déroulent ses expériences » organise la pensée dès la naissance. Et ça, c'est fondamental. C'est cet environnement de base. Donc, le domaine des apprentissages est indissociablement lié aux affects. Et je pourrais dire que, justement, quand je suis arrivée à l'héliport, près de la gare du Nord, dans les zones d'éducation prioritaires, j'avais une formation de psychomotricité de kiné, c'est-à-dire, je crois, très limitée. Elle a peut-être un peu augmenté, là, maintenant, je n'en sais rien. Mais les affects n'étaient pas pris en compte. Et c'est bien pour ça que j'ai glissé dans la psychomotricité, parce que je me rendais bien compte que la première difficulté était liée à ce niveau-là, au niveau relationnel. Un bébé n'existe pas seul. Il a besoin d'un holding, d'un handling, d'un object presenting suffisamment bon. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être tenu, contenu, qu'il a besoin d'avoir des soins et qu'on lui présente le monde, mais en le contenant, en le soutenant. En Suisse, des personnes qui travaillent avec Bernard Bullinger parlent de encordage. Je trouve cette image très, très belle. L'encordage, c'est quand on doit grimper une montagne et qu'on attache et qu'on accompagne l'enfant pour grandir. Donc, il a besoin d'une fonction maternante, bienveillante. Elle met des mots sur les sensations de l'enfant. Il a besoin que la fonction maternante assure cet arrière-fond sécurisant. Dans un environnement flou, chaotique, discontinu, donc s'il n'y a pas de structure, si l'enfant ne peut pas se rendre compte de ce qui va arriver, si la rythmicité n'est pas régulière, elle peut être irrégulière à un moment, mais si elle est toujours irrégulière, s'il ne peut pas se représenter, la notion de permanence de l'objet qui se joue à travers les modalités de la relation mère-enfant n'est pas assurée. Et la notion de conservation indispensable à l'établissement de nombreuses fonctions cognitives ne peut pas être comprise de façon satisfaisante. L'enfant n'intègre pas. Avec une fonction maternante qui est sécurisante, l'enfant prend conscience de lui. Petit à petit, il se construit un contenant. Ce contenant, c'est. Donc, c'est Didier Anzieux qui en parle en premier. Ce contenant, c'est ce feuillet externe de toutes les sensations qu'il reçoit et ce feuillet interne de toutes ces sensations qu'il ressent à l'intérieur. Et pour ça, il a besoin de cette fonction maternante, justement, pour construire cette enveloppe. Une fonction maternante bienveillante, donc qui met des mots sur les sensations, il a besoin d'un arrière-fond sécurisant, il a besoin de se construire, que quelqu'un l'aide à se construire un contenant de pensée, et il a aussi besoin que cette fonction maternante soit suffisamment malléable, c'est-à-dire qu'elle puisse être qu'elle puisse subir les agressions qu'il pourra avoir ou les mots, qu'elle puisse entendre ce qu'il dit, qu'elle puisse contenir tout ce qui l'inquiète. L'enfant, il est dans le jeu, et dans le jeu, nous dit Roussillon, et c'est vraiment là qu'il se construit. Donc, pour que l'enfant puisse accéder à la représentation, il doit rencontrer cette réalité suffisamment malléable, transformable, indestructible. Cela lui permet l'accès à la transformation, à la représentation, nous dit Maurice Berger. Et là, nous retrouvons Daniel Flaget, qui insiste tout au long de son livre, pour entrer dans les apprentissages, il faut se sentir exister. C'est le narcissisme primaire. Et pour se sentir exister, on a besoin de l'autre. Pour entrer dans les apprentissages, il faut s'estimer, s'aimer soi, avoir confiance en soi, un minimum. C'est le narcissisme secondaire. Et je peux vous dire que actuellement, dans l'enseignement, dans ce qu'on voit dans les écoles, ici à Bruxelles, mais je suis sûre que c'est partout, ces deux choses-là ne sont pas beaucoup assurées ou pas suffisamment assurées et de moins en moins assurées vu tout ce qui se passe à l'extérieur, vu le développement de notre société. Et c'est là où vraiment je pense que le psychomotricien peut avoir une place et une aide importante. Il a du travail à faire. Alors il y a Bernard Gibelot qui nous dit que toute nouvelle expérience, elle va s'inscrire dans la structure propre de l'individu. Elle va s'inscrire dans les expériences sensorimotrices, affectives, cognitives de la personne. Et ça, dans l'enseignement, je pense qu'on ne s'en rend pas assez compte. C'est l'enfant, il a toute une histoire. Il a toute une histoire, il va découvrir des nouvelles choses qu'il va ajouter à ses expériences. Mais ses expériences sont différentes des autres enfants et sont différentes du professeur. Et c'est là où il peut se passer beaucoup de choses, où on ne comprend pas l'enfant, on se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Parce que cette structure dans laquelle il s'est construit est différente. Et cette structure, avec ses nouvelles expériences, elle est continuellement remaniée avec de nouvelles expériences de l'individu. De nouveaux liens se créent, de nouvelles découvertes, de nouvelles pensées. L'enfant va se construire donc dans la relation avec cette fonction maternante suffisamment bonne, avec son environnement, avec son équipe son équipement neurophysiologique. L'enfant entre en relation avec son environnement, Il se constitue son schéma corporel, son image corporelle. Il se construit ses instruments dans toutes ses relations. Et ceci, on peut le retrouver un petit peu dans la théorie d'attachement de Bowlby. C'est l'enfant sécure. L'enfant sécure, l'enfant qui sait qu'il a un arrière-fond, qu'il a une sécurité, qu'il a une fonction maternante qui est là, si ça ne va pas, il peut aller découvrir le monde. Il peut aller explorer. Il sait que s'il a besoin, il peut se retrouver sa fonction maternante. Et d'ailleurs, cette sécurité, on la retrouve partout. Tant qu'on a des personnes sécures, des personnes, des piliers, on peut à tout moment les retrouver pour se sécuriser et pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir repartir après dans nos découvertes. La fragilité narcissique, donc cette fragilité à la base, peut conduire tout à fait à la réduction du champ cognitif. Par peur du déséquilibre que tout apprentissage provoque. Apprendre quelque chose de nouveau, mais toujours dans un déséquilibre, fait peur. Il faut être solide, il faut pouvoir avoir cette confiance en soi pour pouvoir passer le cap. Mais si cette confiance est insuffisante, on n'a plus envie d'apprendre, on se ferme. Parce que ça fait trop peur. On peut arriver même à une rigidification de la pensée. On ne veut pas savoir, on ne veut pas apprendre, on se contente de son petit train quotidien où on n'a pas envie de découvrir tout ce qu'il y a ailleurs. Ou bien ce narcissisme insuffisant peut aussi provoquer un apprentissage en faux self. On veut montrer qu'on sait, on essaye de répondre à ce que la société attend de nous, à ce que l'enseignant attend de nous, mais sans vraiment ancrer ses apprentissages. Donc, pour développer ces instruments, être disponible au monde environnant, aux apprentissages, il faut être un. Il faut être solide, bien ancré. Se faire confiance. Se sentir être, avoir une bonne estime de soi. Nos instruments se construisent dans la relation, dans l'interaction avec notre environnement. Et là, nous allons passer à André Bullinger. André Bullinger, il est suisse, il est décédé cette année-ci. Il a travaillé pas mal avec Goltz, Deslions, entre autres. Et lui... Il a étudié vraiment la genèse des instruments et il a déterminé différents espaces de développement de niveaux d'instruments. Pour lui, l'espace n'est pas un objet du milieu, il est le fruit de coordination. Ces espaces représentés sont orientés par les moyens sensorimoteurs mis en jeu pour habiter ces espaces. C'est-à-dire que l'enfant va recevoir des flux sensoriaux et il va se mobiliser pour aller voir ce qui se passe. Donc, dans l'élaboration de ces espaces, il développe la notion de flux sensoriel. Et dans ces flux sensoriaux, justement, je vous avais dit au départ, on en parlait un petit peu, le bébé quand il est dans le ventre de sa maman, dans l'utérus, il est bien installé dans le liquide amniotique, toujours à la même température. Tous les flux sensoriaux sont là. Mais ils sont quand même tamisés. Ces flux sensoriaux vont quand même agir sur son tonus. Et dès qu'il part, qu'il ressent quelque chose, il part en extension, mais tout de suite par l'utérus, il est ramené en flexion. Alors, ces flux sensoriaux, ils provoquent donc un niveau d'alerte de l'organisme. il nécessite un recrutement tonique. Donc s'il entend un bruit ou s'il sent un mouvement fort, il peut hop partir en extension. Ces flux sensoriaux vont provoquer des réactions d'orientation. Donc j'entends quelque chose, je me retourne pour aller voir d'où ça vient. Et il y a un traitement de distance qui va se faire et qui va me dire j'entends mais je vois. Donc il y a un traitement intermodal et des conduites instrumentales finalisées et orientées spatialement vont se produire. Les flux sensoriaux se répercutent donc sur notre tonus, sur nos mouvements, sur notre respiration, sur notre voix, notre écoute, notre manière d'entrer en interaction. Alors, André Boulanger, il a ajouté donc un flux sensoriel fondamental, c'est la gravité. Il a ajouté la gravité, je vais revenir plus tard, je vais vous dire d'abord tous les espaces de développement qu'il a déterminés. Donc l'espace utérin, l'espace de la pesanteur, où justement la gravité va intervenir, l'espace oral, l'espace du buste, l'espace du torse et l'espace du corps. Pour lui, si ces espaces se passent mal, cela peut entraîner des troubles praxiques, des troubles de développement, des troubles dans l'élocution ou dans les mouvements, des troubles instrumentaux. Pour que ces espaces s'établissent bien, la nécessité d'un arrière-fond est indispensable. Et donc, de nouveau, on retrouve la notion de contenance, le holding de Winnicott. Et on retrouve aussi la théorie de l'attachement de Bowlby. Et je n'ai pas repris tout le monde, mais y en a plein qui vont dans la même direction. Alors, l'espace souterrain. Il n'y a pas de force de gravité. L'enfant est bien, la température est juste bonne, il est contenu, il baigne dans les liquides. À chaque stimulus sensoriel, donc il part en extension, et l'utérus le ramène en flexion. Il est contenu. Un dialogue tonico-émotionnel s'installe avec sa mère et lui. Et déjà là, l'activité orale est active, il explore sa bouche, il déglutit. Il y a la déglutition, il y a la succion, elles sont déjà présentes. Dans cet espace, l'enfant, il a déjà des réactions de fouissement dans la paroi utérine, c'est-à-dire qu'il va aller mettre son dos, qu'il va aller rechercher un contact dans cet utérus. Il explore sa cavité buccale avec son pouce, il le suce, il est capable de déglutition, de succion, il bouge, il gigote, il est bien, il se rassemble, il prend son pied au sens propre et au sens figuré, il rassemble ses mains. Et vers 5 mois, il est déjà capable de faire la pince pouce index. Alors qu'une fois qu'il sera à la pesanteur, il faudra beaucoup de mois avant qu'il arrive à faire ce petit mouvement. Louis. Alors Louis, comme il est dans un liquide, c'est comme s'il avait la tête dans son bain. Donc il entend non seulement d'abord les perceptions internes, il entend le cœur de sa maman, il entend les borborythmes, ses intestins, il entend aussi son cœur, mais il entend aussi les bruits extérieurs qui sont tamisés, mais quand même, par exemple, si sa maman chante, son cœur va accélérer. Si les voix graves, il va préférer les voix graves, il les entend mieux. Parce qu'elle provoque plus d'ondes. En fait, il l'entend, mais il le ressent aussi. Ces sons lui font comme tout un massage, puisqu'il est dans un liquide, ça fait des ondes et des vibrations. Alors, le goût. Il distingue déjà les différents goûts qu'il retrouve dans le liquide amniotique. L'odorat aussi est déjà présent. Et la vue, fin de grossesse, il peut déjà distinguer les lueurs. Les lueurs. Voilà. Alors, à la naissance, c'est le grand chambardement. Les flux deviennent de plus en plus directs. Bonjour papa. Entrée très discrète. Voilà. Donc à la naissance, il est plus contenu dans cet utérus, dans ce liquide, et les flux sont beaucoup plus directs et beaucoup plus incisifs. Et il découvre la pesanteur. Alors qu'il était libre de mouvement, et qu'il était tout à fait libre dans ses mouvements, dans cet espace de pesanteur, il se retrouve un peu écrasé, comme une grenouille, dit Bullinger. C'est-à-dire qu'il a une hypotonie axiale et une hyperflexion des membres supérieurs et des membres inférieurs, mais il est complètement écrasé. Voilà la grenouille écrasée, comme il nous l'a décrit. Et donc, l'espace de pesanteur va devenir le fruit des coordinations entre le système vestibulaire, donc de l'équilibre, et toute la proprioception. Il va devoir trouver ses appuis. Il doit pouvoir trouver ses appuis pour trouver des postures. André Bullinger nous dit donc que c'est un espace de coordination, proprioception vestibulaire, que cet espace permet le regroupement des réactions d'appui, la création de la verticale et l'élaboration instrumentale de la pesanteur. Et si il y a un problème, il y a des troubles praxiques de redressement, cette difficulté de redressement. L'espace de pesanteur est concomitant à l'espace oral. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment, se déroulent ensemble. L'enfant naît et sa bouche est tout de suite en activité. Il va, la faim et la satiété vont rythmer cet espace. C'est-à-dire que dans la faim, il va crier, hurler, il est hyper tendu. Et dès qu'il est rassasié, il se détend, il passe dans un tonus complètement autre, il se laisse aller, il s'abandonne. Et avec une fonction maternante suffisamment bonne, cette variété de passer d'un tonus à l'autre est fondamentale. Donc, il nous dit, la mise en forme du corps, les odeurs, les stimulations tactiles, la succion, la déglutition permettent d'arriver à la satiété. Après, il va développer, donc avec l'évolution du tonus, avec la loi céphalo-codée, il va découvrir petit à petit, vers 4 mois, il va pouvoir contrôler sa nuque. Il va découvrir l'avant, l'arrière et la flexion. L'extension, et il va pouvoir petit à petit aussi orienter sa vue pour voir autour de lui comme il arrive à contrôler ce buste. Et c'est une étape qui est essentielle pour découvrir l'environnement, pour pouvoir voir tout autour de soi. Et ça permet aussi à l'enfant de passer de cette vision fovéa et cette vision qui était limitée à un point à une vision périphérique. Donc, l'espace du buste, pour André Bullinger, c'est la coordination avant-arrière, l'équilibre flexion-extension, la création d'un arrière-fond et l'élaboration instrumentale de la vision. Alors, l'élaboration instrumentale de la vision, donc dans cet espace, est fondamentale et on retrouve chez les enfants qui ont des troubles instrumentaux beaucoup de troubles de la vision qui ne sont pas décelés. Et donc, c'est pour ça que dans l'une des soirées des séminaires qui va suivre cette conférence, nous allons inviter des orthoptistes qui vont nous parler justement de ces problèmes de vision qui peuvent entraîner des troubles d'apprentissage. Donc, si troubles de cet espace du buste, clivage avant-arrière, les troubles de praxie oculomotrice, et l'enfant alors peut s'agripper visuellement et n'a pas à avoir l'activité d'exploration. Et il peut aussi rester dans un tonus prismatique, c'est-à-dire que le petit enfant, tout au début, comme il n'a pas encore le contrôle de son buste, il va relever la tête juste pour regarder en bloquant sa respiration et puis il va retomber. Après, nous allons avoir, il nous décrit l'espace du torse, qui est l'équilibre entre deux postures asymétriques, le côté droit et le côté gauche, et qui va créer l'espace symétrique entre la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne. C'est aussi fondamental parce que ça crée l'axe qui permet toutes ces rotations. C'est le fondement de la latéralisation, de l'appréhension et de l'organisation spatiale. Et la bouche, ainsi libérée de l'exploration, est disponible pour les jeux vocaux. Donc, avant, la bouche, elle servait aussi pour découvrir tout ce qui l'entourait. Mais là, à partir du moment où il développe son espace du torse, il peut utiliser ses mains pour explorer. Sa bouche est libre pour commencer à faire des sons, pour parler, pour entrer dans le langage. Donc l'espace du torse permet la coordination gauche, orale, droite. Elle permet le relais de la sphère orale par l'espace de préhension entre ses mains. C'est la création d'un axe corporel, l'élaboration instrumentale du torse et des mains, c'est la manipulation, c'est les mains qui se complètent pour manipuler. S'il y a un trouble dans cet espace, il y a possibilité de clivage gauche-droite. Et on observe alors que les enfants gardent leurs mains attachées pour réunir ces deux hémicorps. Alors, ça aura aussi un retentissement sur la zone orale parce que c'est elle qui va continuer à explorer et donc ça va retarder le langage. Et on aura aussi des troubles praxiques, donc des membres supérieurs, de l'axe corporel et de l'espace de préhension. Et surtout aussi, il n'y a pas d'harmonisation du tonus des deux hémicorps. Et enfin, le dernier espace, et après j'en ai fini avec la théorie, parce que je pense que ça devient long, l'espace du corps. L'enfant, petit à petit, quand il maîtrise maintenant son buste et la dissociation des ceintures scapulaires et pelviennes, et ça va permettre l'enroulement du bassin, donc la découverte des membres inférieurs, la coordination entre le haut et le bas du corps, c'est l'unification du corps. C'est la coordination donc du haut, du bas, le corps articulé, l'espace de déplacement, la création du corps véhicule, et c'est l'élaboration instrumentale du bassin et des jambes. S'y trouble dans cet espace, de nouveau, clivage entre le haut et bas, et trouble praxique dans l'espace du corps, dans l'espace des déplacements, des difficultés. Voilà. Ceci est un. Je reprends des notions essentielles de Bullinger, mais c'est évident que pour celles qui sont intéressées, vous retrouverez les bouquins à la librairie et je vous les conseille vivement. Le tome 2 est sorti après sa mort, il reprend toutes ses conférences. Mais voilà, il explique vraiment en détail. Et je crois qu'en tant que psychomotricien, ça nous ça nous met, nous explique comment les instruments se développent. Et ça va aussi, vous allez le voir après la pause, je reprendrai là plus que des petits films, mais on reprend toutes ces étapes de développement, tous ces espaces de développement. Et Daniel, un petit jeu, c'est à toi.
Oui, c'est à moi.
On va se détendre. C'est fou parce que je me disais, on ne se rappelle plus qu'on a fait tout ça. Hein. Enfin, si, peut-être, posture. Donc, moi, je m'occupe plus des effets secondaires de tout ça, c'est-à-dire des difficultés pour apprendre. Alors, je parlais de confusion ce matin. Je pense qu'on a parlé aussi du handicap invisible. Très important, ça, le handicap invisible, parce que le handicap invisible a beaucoup plus de mal à entraîner l'altruisme. J'ai travaillé un certain nombre d'années dans l'enseignement spécialisé où les enfants ont des problèmes de cécité, de surdité, de problèmes des IMC que vous connaissez mieux que moi. Et là, il y a une espèce, il y a automatiquement une mise à disposition, je ne vais pas dire empathique, mais on est ensemble contre le trouble. Alors que quand les handicaps ne sont pas visibles, il y a beaucoup de croyances et il y a beaucoup de messages qu'on envoie à l'enfant qui ne sont pas tout à fait adéquats parce que tout simplement, ce n'est pas qu'ils sont malveillants, mais ils ne correspondent pas à ce qui se passe. Alors être 10, mais il y a des personnes ici du PMS notamment qui ont déjà fait les tests, donc je ne vais pas les faire repasser une deuxième fois là-dessus. Je vais le choix. Alors soit je vous mettais en difficulté d'écrire, je me dis que ça peut-être que tout le monde pourrait le faire, tiens pourquoi pas. Vous avez au moins une feuille et un bic. Voilà. Alors, je vais commencer par là. Ça, au moins, vous pouvez tous le faire. Je vais vous demander de fermer les yeux, de prendre votre main non dominante. Soyez attentifs parce que je ne vais pas donner la consigne trois fois. Hein. Très bien. Pas de bonne humeur. J'aimerais bien que vous m'écriviez votre nom, votre prénom et votre date de naissance en toutes lettres sans lever le bic. Je l'ai dit. Les yeux fermés. Quel calme, on va prolonger l'expérience. Il y a des rebelles ? Bizarre. Sans lever le bic. Ça avance ? Eh ben, il y a des tricheurs, hein ? Alors, c'est drôle parce que voilà quelque chose qu'on croit quand même automatisé. Et puis on lève les automatismes. Je ne vais pas passer en revue toutes vos productions. On peut les relever, hein, ça fera quelque chose de chouette, surtout pour nos élèves. Alors vous vous imaginez que vous écrivez dans ce degré de complexité. Et puis que moi, un peu brutalement, comme je me suis permise de faire en première ligne ici, je vais mettre un grand soin. Point d'exclamation. J'aurais aussi pu dire que si je ne sais pas lire, je ne corrige pas. Que je vous rends votre torchon. Vous avez vu d'ailleurs que quand les consignes sont un peu absurdes et anormales, mais comme elles le sont pour la plupart des enfants qui ont des troubles instrumentaux puisqu'ils ont un filtre, eh bien on demande à les répéter. Les yeux fermés, j'ai déjà dit, paf. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien aux consignes, je dis trois fois la même chose. Voilà, ça c'est le vécu des enfants. Mais la grosse différence, c'est que je suis sûre que vous vous entraînez, vous y arrivez. C'est-à-dire si je mets une grosse charge, soit en promesse, soit en menace, à l'activité et puis que vous bossez là-dessus, vous allez finir par me produire quelque chose de bien. C'est-à-dire que c'est presque, j'ai envie de dire, le drame de ces enfants-là. C'est que ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent tout faire, à condition d'y mettre une concentration et un travail anormal. Ce que vous n'avez pas dans les troubles physiques. Et donc, je suis cynique souvent avec ça. Donc, excusez-moi si vous ne partagez pas ce genre d'approche, mais on ne met pas un enfant aveugle devant parce qu'il doit quand même voir un peu mieux devant que derrière. Et on ne lui dit pas que taratata, t'es aveugle. Moi, je suis sûre que tu te concentrerais. Tu ne vas pas me dire que tu ne vois rien. C'est pas possible. Or, c'est un discours comme ça qu'on tient à ces enfants. Et le pire, c'est que ça marche. C'est-à-dire que quand ils se surconcentrent ou qu'ils peuvent tout à coup sortir du bois, vous montrer des performances, ce qui met leurs parents dans des rages inouïes ou dans des désespoirs complets, puisqu'il peut tout et son contraire dans l'heure. Et dans l'heure, je suis encore généreuse. C'est-à-dire qu'il se surconcentre, il fait. Alors, les phrases assassines. Quand ça l'intéresse, ben évidemment. Si je dois me surconcentrer pour produire, il me faut une sacrée dose d'intérêt et de concentration et de confiance en moi. Donc effectivement, quand ça m'intéresse, je vais y aller davantage. Quand je ne vois pas très bien le sens, ben je me déconcentre. C'est-à-dire qu'il y a un malentendu total entre les performances et les compétences. Ce sont toujours des enfants qui sont plus compétents que performants. Parce que le problème, c'est le groupe classe. C'est les autres. C'est le regard, c'est le jugement. C'est la double casquette que les enseignants portent d'évaluer et d'apprendre, enfin d'être en situation d'apprentissage. Ce sont des enfants qui souffrent de ça. Alors j'ai encore deux petites expériences à faire. Je ne vais pas les faire trop longues, mais c'est parce qu'elles vont particulièrement bien illustrer ce qu'ils vivent. Si tu veux bien me passer là-dessus. Ah, oui, il faudrait un volontaire. Véronique. Alors Véronique, te voilà bombardée, stagiaire en pharmacie. Tu t'y attendais pas, hein? Et alors moi, je vais prendre ta commande au téléphone. Je ne suis pas d'une humeur terrible. J'ai pas beaucoup de temps. Et je vais te demander de me passer commande des médicaments dont tu vas avoir la liste. Mais il y a évidemment une contrainte, c'est que tu dois me les commander par ordre alphabétique. On y va? Allô? Allô? Ah, bonjour. Je vous écoute. Oui. Vous contrôlez, hein, si elle fait des erreurs. Allô? Vous êtes. Il y a du monde, hein, derrière vous. Vous êtes stagiaire. Vous êtes d'origine étrangère? Mais non, mais c'est parce que je n'ai pas que ça à faire, madame. Oui. Le pharmacien n'est pas là? Le pharmacien n'est pas là? Ah bon. D'accord. Oui, mais j'ai du métier. Oui. je suis désespérée. J'allais boire un café. Mais non. Mais écoutez, c'est pas grave. Je rappellerai quand le pharmacien sera là. Hein? Pas grave. Pas grave. Tiens, avant que tu ne t'en ailles, Véronique, pour être plus efficace, qu'est-ce que tu aurais préféré que je fasse ou qu'est-ce que, dont, de quoi aurais-tu eu besoin?
Moi, j'aurais eu besoin que le nom du médicament et une majuscule et soit en début de ligne et pas le nom de
déjà. Et moi, et je, tu veux que tu veux, tu, ça te ferait peut-être du bien de réviser l'alphabet.
Ça irait si les noms, les grands noms là, d'écran, machin, tout ça, étaient mis en début de ligne avec la première lettre quand même en majuscule, mais ça, oui, la première lettre en majuscule, et pas si serré, quoi, étalé, et les autres informations derrière et par colonne. Ce que je fais quand moi je passe des commandes comme ça. Mais moi, c'est pas organisé comme ça, sinon ce serait la cata et on raccrocherait au bout de
l'heure. Oui, tu vois, je suis encore sympa finalement. Hein. T'organise. Alors, donc tu organises avant, pas après.
Non, parce qu'au début, ça va, je stresse pas. Donc le premier, j'ai des chouettes, j'y arrive. Et puis plus ça avance, plus je stresse. Et plus je stresse, et moins je sais.
Ah, bah évidemment.
Complètement tout et je rigole.
Bon, merci Véronique. Alors, dans, oui, ça mérite ça. Hein. Ce que vivent ces enfants, je vais, avant la deuxième, c'est plusieurs choses de ce type. C'est-à-dire que pendant qu'ils travaillent, les autres ont fini. Parce qu'ici, on est dans une situation très artificielle, l'exercice est ludique, etc. Mais dans une classe, tout le monde fait ça mieux que vous et très vite. Et vous, vous êtes perdus. Et alors j'ai la petite phrase que j'aime beaucoup, parce que je suis beaucoup en classe, qui n'a l'air de rien, c'est « ceux qui ont fini prennent leur collation ». Donc du coup, vous continuez à essayer de vous concentrer, puis vous dites « ça y est, en plus on va me piquer mon Twix, et moi j'ai faim aussi, et je dois rester, et je m'énerve, et donc ça ne va pas ». Autre chose aussi, c'est que la majorité des gens à qui je fais subir ça, c'est-à-dire que je désautomatise finalement, hein, me disent « j'aurais dû avoir la liste avant ». Et alors ça me frappe à quel point tout le monde me dit ça, que ce soit les enseignants d'ailleurs ou le milieu plus privé, et que j'ai tellement de mal à faire passer l'idée qu'on est toujours une guerre en retard en remédiation. C'est faire du preloading qui est intéressant pour les enfants, c'est-à-dire que les enfants fragiles instrumentalement, quand le vécu de classe est raté, quand ils ont déjà dû être en faux self, mais nous on arrive en remédiation, mais c'est trop tard. Parce que le prof, de toute façon, il est déjà plus loin, ils ne sont pas motivés par ça. Ce qu'il faut absolument faire, je pense, comme dans certaines écoles anglo-saxonnes, et en Flandre, ça commence, c'est réfléchir à notre médiation en termes dynamiques. C'est avant qu'il faut les armer, pour que le collectif, dans le collectif, au niveau du narcissisme premier et secondaire, comme Dominique a parlé, vous puissiez enfin lever la main, que vous puissiez enfin ne pas être paumé, ne pas être obligé de faire l'andouille ou le pitre pour survivre. C'est avant qu'il faut penser la remédiation. C'est avant qu'il faut rendre des plumes, pas après. Alors une dernière, deuxième petite expérience. Un autre volontaire qui est né en décembre.
Alain.
Vous ? Ah, le président ? Allez, le président. Bon, alors, ça, on va sortir de la pharmacie. Je ne chronomètre pas, mais quand même. Alors, je vais vous demander de lire le texte suivant et de répondre à la question posée. Vous pouvez tous essayer, hein. Allons-y. En silence.
C'est fait.
Ça se voit quand même. Alors, Monsieur le Président ? Vous lisez un peu tous les jours, parce que ça fait du bien. Hein. Qui a abandonné ? Abandon ? La démotivation, c'est une plaie hein, de nos élèves. Oui. Alors voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est pas n'importe quoi. C'est de nouveau, voilà par exemple, une situation artificielle, soit, mais je vous plonge dans un système de lecture où vos yeux ne reconnaissent rien. C'est-à-dire que vous devez faire appel à une espèce de subvocalisation, votre analyseur phonémique, pour réentendre, resegmenter, refaire du sens, c'est-à-dire que toutes vos facultés attentionnelles sont à autre chose. Et puis, je déboule avec une question. Et ça m'amène à redonner 3-4 points, et après on ira sur le champ neuro. Un, vous aurez plein de bêtes questions. Ce sont pas des bêtes questions, ce sont des questions que les enfants posent parce qu'ils ont une pensée divergente et parce que le fait d'avoir été au four et au moulin fait qu'on pose des questions qui n'ont... Les enseignants me disent, il n'y a aucun élève de quatrième qui me demande ça que lui. Monsieur, il me dit, la question, c'est ce qui est en bas. Non, c'est en haut. Oui. On est donc du coup, et c'est là que ça se joue, épuisé, exaspéré, étonné, je sais pas, tous les adjectifs qu'on peut mettre, et on se lâche. Et je suis pas mieux que personne, parce que c'est tellement étonnant, les questions de ces enfants. C'est vraiment l'interface entre moi et l'autre qui fait que je demande, je suis dans le brouillard. Dominique l'a expliqué, je suis dans le brouillard. Alors, s'il vous pose des bêtes questions, vous n'êtes peut-être pas tous enseignants ici, mais réjouissez-vous, ça veut dire je suis encore en contact avec lui, je suis dans la relation. C'est quand il n'en pose plus que le drame commence. Oui, ils poseront des bêtes questions. C'est un problème d'automatisation. Je répète, c'est pas je ne peux pas, c'est je ne peux pas le faire dans n'importe quelle circonstance et particulièrement pas dans le groupe classe où toute l'image va être rejouée. Je peux tout et son contraire, très vite. Aussi, une manifestation des troubles. Alors, est-ce que c'est durable ou est-ce que c'est pas durable ? Alors, je vous propose de plonger un petit peu dans les dernières... connaissances neurologiques. Alors, merci à Émilie Lacroix, parce que Émilie Lacroix, c'est une chercheuse en neuropsychologie avec laquelle j'ai en partie fait ce PowerPoint il y a quelques années. Bon, bien sûr, il a évolué, il a changé, mais pas mal de DIA lui appartiennent, donc merci Émilie. Elle n'est pas là, mais voilà. La prévalence, c'est-à-dire la question que me posent pas mal de gens, est-ce que ça explose dans la population ? Cette proportion, c'est une vieille habitude qui nous est issue du siècle passé, c'est de tout mesurer. Hein. Donc il a fallu qu'on mesure. Il ne faut jamais être sûr de ces mesures, parce que ça, c'est les gens qu'on détecte. Mais en tout cas, ça tourne relativement. Alors, les plus pessimistes, j'ai vu des études tourner autour de 16 à 21%. Je prends l'extrême de ce que j'ai lu. Ça tourne aussi, les publications vont de 5, 17,5%, de 1 à 12, vous voyez le flou artistique. On va considérer que ça tourne autour d'un petit 10%. Moi, je pense que vous le verrez au fur et à mesure de la matinée, dans ce que je vais décrire, dans ce que Dominique va décrire. On en a tous des troubles. Mais c'est donc justement l'impact du développement qui a tout rejoué. Et le handicap ou pas que ça a posé. Mais on en a tous. Alors, on va dire statistiquement, combien d'enfants par classe ? Plus ou moins 1 à 3 des enfants en échec scolaire. Plus ou moins... Alors, il y a d'autres études qui sont sorties. Dans le pourcentage en fédération chez nous des échecs scolaires, on a, dit-on, un tiers, grosso modo, d'enfants dont l'origine des troubles est vraisemblablement un fonctionnement atypique. C'est pas mal, un tiers. Ça dépend d'où on se place, évidemment. Des gens trouvent ça énorme, des gens trouvent ça... Donc l'échec scolaire n'est pas imputé uniquement aux troubles d'apprentissage, mais il occupe quand même un sérieux pourcentage. Alors ne pas confondre non plus ce que les enseignants observent quotidiennement dans leur classe. Il y a des classes où la moitié des enfants est mauvais lecteur. ça ne fait pas d'eux des dyslexiques. C'est-à-dire que le modèle est en train de s'effriter. Le modèle ne correspond plus tout à fait en termes de prévalence à ce que nous observons dans nos milieux scolaires. Il y a donc urgence de quitter doucement ce modèle qui forcément est réducteur pour aller plus sur les difficultés environnementales, j'y arriverai, des enfants. On continue. Alors les recherches ont évolué, oui, bien sûr. Au départ, on avait des autopsies. Moi, je me rappelle, mon mémoire, il y a quelques années maintenant, portait sur les travaux de Gala Bourda, on avait juste, et tant mieux, que 5 cerveaux d'enfants autopsiés qui avaient eu des difficultés d'apprentissage. Et quand même, il y avait un premier mouvement, donc ça date du siècle passé, c'était tout le développement de la connaissance plus large du cerveau. Donc on cherche, il y a la phrénologie, c'est-à-dire les anciennes théories où d'après votre morphotype, on savait dire qui vous étiez, votre caractère. On a toujours essayé de classer les gens, toujours, mais ça a évolué. Alors un peu d'histoire. Pour comprendre où on en est aujourd'hui par rapport à ces troubles, il faut savoir d'où on vient. Alors, on a essayé des définitions et des concepts. Je vais vous donner, en tout cas celles dont moi je dispose, les principales données de la recherche. Pour aller doucement vers les théories actuelles, et puisqu'il m'intéresse le plus, c'est les recherches futures, c'est-à-dire vers où on va. Et vous verrez que là, on a tous besoin l'un de l'autre. Alors, les théories, on dit ici deux fondements théoriques et empiriques, j'ai repris ça de Habib. En tout cas, ce qui fait consensus, c'est que la cognition, c'est-à-dire tous nos mécanismes, nos apprentissages pour développer de l'apprentissage sont modulaires. On a donc dans notre cerveau des modules qui se mettent au service de l'apprentissage. Et ces modules, je le répète, ils sont très culturels, puisque si vous apprenez à lire chez nous dans une langue opaque, transparente, qui n'est pas du tout transparente, mais qui est, on n'écrit pas du sens, nous on écrit des sons. Si vous changez de culture et qu'on écrit des idéogrammes, ce n'est pas les mêmes parties du cerveau, ce ne sont pas les mêmes modules qui deviennent opérants. Donc c'est très culturel, le cerveau s'adapte très très vite à ce qu'il entend, vous avez vu, in utero, à ce qu'il voit, à ce qu'on va le contraindre, mais en tout cas il développe des modules. Et ces modules, vous le verrez tout de suite après, sont sous-tendus par de l'organisation neurologique. Ça, nier ça, c'est nier l'évidence. Alors, on avait je vais revenir sur le minimum brain damage, excusez-moi pour l'accent, qui est de toute façon une notion qu'on n'utilise plus beaucoup, mais qui a été étayée certaines théories pendant de nombreuses années. Alors, les enfants, ces fameux brain damage, c'était des enfants qui présentaient des dysfonctionnements neurologiques, mais on ne savait pas très bien les objectiver. Le trouble d'apprentissage mis en relation avec une dysfonction organique ayant entravé le développement de certaines zones du cerveau, on a gardé ça. Mais c'est une notion peu utilisée aujourd'hui qui est remplacée par la notion de mise en place défectueuse en partie d'origine génétique de certains circuits cérébraux. Ce que je préfère au mot « damage », maintenant j'ai beaucoup cherché pour savoir exactement, parce que c'est évidemment cet anglais que je ne maîtrise pas, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire une lésion? Est-ce que ça veut dire est-ce que c'est un accident toxique? Est-ce que c'est un accident chromosomique? Est-ce que c'est génétique pur? C'est pas très clair. Je trouve que la dernière définition est plus large et plus prudente. C'est-à-dire qu'il y a une mise en place défectueuse, probablement d'origine génétique, de certains circuits cérébraux. Mais vous le verrez tout au long de la matinée que tout ce qui va se jouer, c'est ce qu'on va faire de ces circuits défectueux ou non. C'est ce qu'on va leur offrir comme stimulation, puisque un cerveau humain, c'est extraordinairement branché au niveau neurologie, mais c'est chaque seconde. Si vous avez l'occasion d'aller écouter ça, Monsieur Jacquard, sur YouTube, La vraie intelligence, c'est extraordinaire. C'est les 10 000 connexions par seconde jusqu'à nos 15 ans entre chaque neurone. Alors, on a cherché, bien entendu, ces fameuses localisations cérébrales. Est-ce qu'il y aurait des zones cérébrales dédicacées à certaines fonctionnalités cognitives? Ben oui. Et comment le sait-on? Ben malheureusement, je vous ai dit sur les autopsies, mais aussi sur des gens qui développent des maladies dégénératives, sur des gens qui ont des traumatismes, sur des gens qui sont victimes d'AVC, d'accidents vasculaires cérébraux, qui font des thromboses et qui perdent des habiletés. Alors, on va tenter de trouver où se passe le problème de la dyslexie. Alors, cortex temporal gauche, si vous souhaitez des notes plus approfondies là-dessus, ça existe et je peux vous les donner. Je ne vais pas me lancer dans une description, d'ailleurs je n'en suis pas capable, de toutes les zones cérébrales, mais on a distingué clairement des zones qui, quand elles sont lésées, ça c'est ce qu'on a fait surtout au siècle passé, désorganisent les fonctions cognitives des sujets. Dans la dyscalculie, on a quelque chose au niveau du lobe pariétal. Dans la dyspraxie, c'est pas très clair, on a peu d'études. Les fonctions attentionnelles, gestion de l'émotion, gestion de la planification sont clairement devant, au niveau frontal. Ce qui explique que là, par contre, on a quelques études qui sortent sur les grandes prématurités, puisque c'est un lobe qui est tardivement fonctionnel au niveau du cerveau. On a des fameuses recherches qui sont sorties sur la qualité, la recapture de la dopamine, c'est-à-dire ce qui se passait au niveau des neurotransmetteurs, ce qui rend certains troubles d'apprentissage, pour moi ils le sont tous, mais certainement celui-là, dans la nécessité absolue d'avoir un centralisateur qui est pour moi un neuropédiatre, qui a une vision qui va pouvoir rassembler les observations et les compétences. Alors c'est vrai que le TDA est particulier puisque c'est le seul pour lequel on a un médicament spécifique, mais et donc forcément il faut passer par un neuropédiatre. Je trouve quand même intéressant que pour tous les troubles d'apprentissage, quelqu'un puisse prendre du recul sur l'anamnèse, différentes choses qui ont pu se passer, parce que vous avez vu à quel point c'est flux sensoriel, ben c'est l'histoire du sujet. Mais on a des zones, on a des ectopies, notamment pour la dyslexie, on a des endroits du cerveau où les choses ne se passent pas comme chez la moyenne des individus. Alors en principe, si tu touches une touche, ça doit bouger. Ça bouge ou pas?
Oui.
Ah ben voilà. Waouh. C'est pas moi qui ai fait ça. Évitons le réductionnisme. Ben oui. Oui, on voit plus ou moins où ça se situe, mais c'est tellement vague que la notion a dû évoluer. Et qu'est-ce qui nous a permis d'évoluer? Ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle. C'est-à-dire maintenant, on n'est plus obligé d'attendre que les gens meurent, ou qu'ils aient des accidents. On peut les mettre tranquillement sous des électrodes, les faire calculer, écrire, réfléchir et voir comment ça se passe, c'est toute la partie fonctionnelle. Et là, on a des surprises. C'est-à-dire que ces localisations cérébrales qu'on croyait très localisées sont en fait en réseau permanent. Tout fonctionne en réseau, en synergie. Mais moi, ça me plaît bien, cette idée-là, parce que ça veut dire qu'on peut au moins intervenir sur plusieurs postes. Alors, l'intelligence dans tout ça, un des facteurs exclusifs, vous le savez, mais je le répète, c'est qu'il n'y a pas de problème intellectuel au départ. L'intelligence, qui de toute façon est quelque chose qu'il faut se construire, qui n'est pas donné. Alors nier que des cerveaux viennent à maturité avec des dysfonctionnements ou des myélinisations défectueuses et ce genre de choses, c'est nier l'évidence. Mais en revanche, que l'intelligence, on se l'approprie et qu'on se la construit, j'espère que l'accord est bon, ça c'est une autre évidence aujourd'hui. Alors l'intelligence dans tout ça, allons-y puisqu'on a un QI. 50% d'environnement, 50% d'inné. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a de l'inné et du développemental. Les gens ne sont pas toujours d'accord sur le ratio. Certains croient à beaucoup plus de constitutionnel, d'autres à beaucoup plus de fonctionnel. 50-50, ça met tout le monde d'accord. Personnellement, ça me rassure plus de penser qu'il y a beaucoup plus d'environnement. Parce que ça veut dire qu'on peut intervenir. L'intelligence. Alors allons-y. Nous avons donc différents tests intellectuels. Je reprécise, même si c'est redondant, que c'est très culturel, pour mesurer, entre guillemets, l'intelligence des gens. Ce qui se passe certainement, c'est que ne pas avoir les outils, ne pas avoir la relation en face qui vous permet de vous développer, le regard, la confiance, fait que des cerveaux se débilisent. Alors on va dire, ben oui, mais finalement, le développement intellectuel n'est pas bon chez cet enfant. Il ne s'est pas bien développé, ça c'est possible. Mais au départ, en tout cas si je m'en tiens au texte, il n'y a pas de problème intellectuel. Ça peut le devenir, mais ça n'est pas à l'origine. Les différents tests, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus parce qu'il y a une soirée qui va parler des bilans. Moi ce qui m'intéresse dans les bilans, ce n'est pas les bilans, c'est l'analyse clinique. C'est-à-dire de pouvoir dire aux gens qui s'occupent des enfants, ça c'est préservé, pour calculer vous passez par là, pour lire c'est par là. Parce que sinon, vous avez des sujets qui vont s'enfermer dans le diagnostic. Je suis dyslexique, ça ne va pas les livres. Pourquoi est-ce qu'un dyslexique devrait être écarté du plaisir de lire? Rien jusqu'aujourd'hui ne m'a convaincu de ça. Par contre, qu'il ait besoin de gens comme vous, comme moi, comme tout le milieu thérapeutique pour dire, il va lire, mais voilà ce dont il a besoin pour lire. Ça, c'est plus intéressant. L'intelligence, elle se mesure, il y a une courbe, il y a une loi. Alors, est-ce qu'on peut voir dans un QI des troubles d'apprentissage? Moi, je trouve que c'est un test intéressant. Fort décrié, parce qu'on va dire, est-ce qu'on mesure bien l'intelligence générale des gens? Ça, je laisse ça à vos représentations. Moi, j'y crois pas beaucoup. En revanche, jeter le bébé l'eau du bain, ça me paraît dangereux aussi. Il y a dans l'analyse d'un QI des items suffisamment étalonnés et suffisamment fins que pour qu'on voit dans les courbes la manifestation de certaines inaptitudes ou mauvaises habitudes, je sais pas très bien, inaptitudes cérébrales. Et donc, en général, quand vous avez le QI d'un enfant qui a des troubles, vous ne pouvez pas le mesurer, puisque statistiquement, vous aurez un effet de scotome, c'est-à-dire vous aurez des items qui sont excellents et des items qui le sont beaucoup moins. Quand on est excellent quelque part et médiocre ailleurs, on n'est pas moyen. On a des difficultés. Est-ce que les enfants qui ont des troubles sont plus intelligents que les autres? Je ne crois pas. Je ne vois pas pourquoi la répartition de l'intelligence, qu'est-ce que ça veut dire, plus ou moins intelligent? En revanche, le développement de l'intelligence va être forcément particulier. Et quand vous êtes mal appris, c'est M. Gilbert qui dirigeait une école ici à Bruxelles qui disait ça, mais j'aime bien le mot. Quand vous êtes un mal appris, parce que vous ne pouvez pas capter ce qu'on vous dit, vous n'avez pas vos outils, vos instruments, eh bien vous devez compter excessivement fort sur votre logique. Et donc que ces enfants puissent développer des facultés d'adaptation au-dessus de la moyenne, ça je le vois tous les jours. Une logique totalement divergente, je le vois tous les jours. Mais c'est un cadeau, parce que cette logique divergente va vous réapprendre votre métier, ça c'est évident. Donc oui, la majorité de la population est dans la courbe de Gauss. Pas un problème d'intelligence. Et de toute façon, entre parenthèses, qu'on sort de la courbe de Gauss par la gauche ou par la droite, on a les mêmes ennuis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enseignement est normal, ça dit bien ce que ça veut dire. Alors les enseignants me disent, mais il n'y a plus d'enseignement normal. Mais si, il y a toujours eu une norme. Ce qui a beaucoup changé, c'est la constitution de la norme. Un tiers des enfants dont les canaux cérébraux ne sont pas ouverts pour apprendre. Un tiers des enfants qui ne sont pas en état d'apprendre. Ça, d'accord. Mais dire qu'il n'y a plus de normes, non, il y en a toujours une. Je passe l'intelligence pour aller à ceci. Alors aujourd'hui, la vision la plus consensuelle, mais elle va peut-être encore évoluer, c'est la constellation. C'est-à-dire, moi je trouve ça désespérant quand des parents reçoivent des retours avec 10, 12, 10. Si vous me suivez, 10, 12, 10, c'est peut-être un peu malheureux. C'est-à-dire, il est dyspraxique, dysphasique, dyscalculique, dysgraphique, 10, 10, 10. Alors, comme j'ai l'habitude d'être un petit peu comme ça, ça c'est statistiquement vraiment un manque de bol, parce que avoir tout ramassé, les parents disent, vous rigolez avec ça, vous, mais moi je ne rigole pas. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller voir une logopède? Est-ce qu'il faut aller voir une psychomotricienne? Est-ce qu'il faut aller chez un neuropédiatre? Il a tout. Alors peut-être qu'on devrait se dire, plutôt que bombarder ça, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc en amont, un dysfonctionnement cognitif qui ferait que les symptômes et les manifestations oscillent? Et donc la constellation, le modèle me plaît bien, il est d'habit parce que justement il met en évidence que, alors la dyslexie est au milieu, pourquoi? Parce que c'est quand même extrêmement rare que vous n'ayez pas de problème pour lire quand vous avez des troubles instrumentaux. Mais les manifestations peuvent passer d'une dyslexie à une dyscalculie, à une dysgraphie. Donc on perd peut-être de temps, mais là c'est mon opinion personnelle, à tenter d'exclure un diagnostic d'un autre, ce qui est déjà un abus de langage, un diagnostic, ce n'est pas des gens qui sont malades, pour se dire, mais finalement, si on regroupait ça en termes de constellation, il y a des fonctionnements manifestement atypiques. Que pouvons-nous faire pour diminuer le handicap? Quand les manifestations en calcul arriveront, on essaiera de les comprendre. Quand les manifestations arriveront en maths, en langage oral, on essaiera d'y mettre du sens et d'aider, plutôt que de, entre guillemets, perdre un temps fou à tenter d'exclure les diagnostics les uns des autres. C'est une vision qui est complètement dépassée. On va parler d'enfants à troubles multiples. Langage oral, dysorthographie, dyslatéralité, dyssynchronie, dysgraphie, praxie. Vous, à mon avis, vous pouvez mettre une idée derrière chacun de ces mots. Autisme Asperger, ça fait plus débat, parce que ce n'est pas à proprement parler un trouble d'apprentissage, mais on va parler de spectre autistique. La frontière est de plus en plus ténue. Donc, recentrons-nous sur la souffrance de ces enfants plutôt que sur le diagnostic. Mais je vous dis, là, c'est une opinion personnelle. Quand je vois la répartition sur 209 patients, alors si vous faites vite une petite addition, on arrive à bien plus que 209. Vous voyez qu'ils ont ramassé tous un diagnostic de dyslexie à 177. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas 170 peut-être, il y a 177 dyslexiques, mais en tout cas c'est l'aptitude qui est la plus impactée. Mais on a des dyssynchronies, des dyscalculies, de la précocité intellectuelle. Ça me donne le temps, l'occasion de vous dire qu'on en sait beaucoup plus aujourd'hui sur la conduction électrique de ces enfants. Je vous invite à lire l'article de Madame Vèvre, V-A-I-V-R-E, mais je le mettrai dans les notes, où on a recherché les potentiels évoqués, le fonctionnement neurologique de ces enfants à haut potentiel et dont pour lesquels le malentendu est total. Il y a là aussi un fonctionnement cognitif en difficulté, qui explique que 4 profils sur 6 n'arrivent pas à la fin de leurs études secondaires, ce qui est quand même ahurissant. Enfin, ahurissant, non, quand on a compris ce qui se passe, c'est pas du tout ahurissant. Mais si on y voit des enfants supérieurement doués, ça n'est pas compréhensible pour les enseignants, je peux imaginer, ni pour les parents. C'est un trouble. Trouble des conduites. Ouais. Non, mais trouble des conduites, c'est-à-dire que beaucoup d'enseignants me disent ici, mais c'est pas du type 8 chez nous, c'est du 338. C'est du 833, c'est du puissance 3. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne s'est pas trompé de casting? Parce que dans le type 8, j'ai surtout des problèmes de comportement. Mais c'est quasiment impossible. Quand toute la journée, vous êtes dans l'impuissance et que vous êtes regroupé sur l'impuissance. Alors, je trouve qu'ils font un travail fantastique dans les enseignements spécialisés. Mais il faut bien reconnaître que les enfants ont compris pourquoi ils sont ensemble. Ils ne sont pas idiots. Alors, le faux sève dont parlait ma collègue, on continue. Tiens.
Elle ne devrait pas être là.
Ah oui, je ne sais pas. La vision permet de considérer les troubles sous un jour nouveau, toutes les combinaisons possibles. Moi, je me rappelle très bien quand je faisais mes études, on me disait, tiens, la dyspraxie, c'est l'opposé de la dysphasie. Oui, mais moi, je vois plein de gosses qui ont les deux. Alors, on disait, ah ben, pour les dyspraxiques, il faut surtout privilégier le langage oral. Et pour les dysphasiques, il faut se taire et il faut montrer. Oui, et quand on cumule, c'est-à-dire quand l'aveugle porte le paralytique, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben on réfléchit, on se dit il y a peut-être quelque chose en amont qui rend à la fois le langage difficile, c'est-à-dire la coordination, l'intention dans les mouvements, et donc ce n'est pas manque de bol, j'ai les deux, c'est j'ai le même dysfonctionnement cognitif, et donc s'en tenir chacun à sa discipline aujourd'hui en travaillant sur des symptômes sans coordonner ce qu'on fait en amont, moi je pense qu'on organise l'explosion, on organise la perte d'énergie. Enfin, j'ai enseigné la physique dans une première vie et c'est vraiment c'est ça, c'est l'explosion, c'est la perte d'énergie parce qu'on va chacun dans notre direction, alors qu'en fait, on a un tronc commun d'action. Donc la vision d'enfants à troubles multiples, même si certains lui reprochent d'être un peu tarte à la crème et un peu vague, moi, elle me convient parfaitement parce que c'est vraiment ça. C'est l'expression à des moments très différents de troubles communs. Les multiplicités de niveaux de perturbation, bien sûr, et j'ai même envie de dire que c'est terriblement lié à la relation. Des enfants peuvent avoir des manifestations avec quelqu'un, pas avec quelqu'un d'autre. C'est bien la preuve que c'est essentiellement du contact humain, pas l'origine des troubles, mais dans l'expression des handicaps. Donc la pluridisciplinarité, c'est ce à quoi on va travailler toute cette matinée. C'est pour ça qu'on est deux ici, on n'a pas du tout le même cursus. Je suis sûre ici qu'il y a des gens qui ont encore fait plein d'autres choses et que la porte ouverte à tout le monde est là. C'est-à-dire que tout ce qui peut permettre de signifier à l'enfant qu'on est avec lui et qu'on n'est pas dans la rééducation. Enfin, moi, j'ai encore été formée à ce mot-là. Hein, la rééducation, mais je crois qu'on ne rééduque personne. On accompagne des gens dans des développements. Rééduquer, c'est un peu stalinien. Et puis, en plus de ça, pour rééduquer, enfin, augmenter la confiance en soi des gens pour qu'ils se redressent, certainement. Parce que les adaptations, la fédération fait ce qu'elle peut. Il y a des CEB adaptés, il y a des CE1D adaptés, il y a des formats, il y a des outils qui sont disponibles. Mais vous savez très bien comme moi que la seule adaptation qui est vraiment efficiente, c'est celle que l'enfant trouve lui-même. Seulement, il faut lui tendre la main. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Il ne comprend pas qu'il a ce filtre. Moi, j'ai perdu, je ne vois plus de près, mais c'est parce que j'ai 50 ans. Alors, je sais que je ne vois plus de près, ça m'énerve, mais j'achète des lunettes. Mais si je n'avais jamais su que je voyais mal de près, ben, je dirais juste que les autres sont fous. C'est ça le problème, c'est que quand vous perdez une aptitude, ben, vous réagissez. Mais quand c'est le développemental, vous avez l'impression que c'est le monde autour de vous qui débloque, c'est pas vous. Il y a vraiment un filtre. Alors après, qui fait quoi ? Ben, qui fait quoi ? Je ne vais pas traîner trop là-dessus, parce que qui fait quoi, vous avez compris, ça bouge. Ma collègue interviendra certainement là-dessus. Seulement, on a encore des professions délimitées. C'est encore une réalité. Donc, de quoi s'occupent les logopèdes ? De tout ce qu'on va appeler langage oral. Connaissez la différence entre un trouble de la parole et un trouble du langage ? C'est la différence entre la capacité à articuler et la capacité à faire des phrases. Donc certains enfants ont juste des problèmes d'articulation, ça peut d'ailleurs être une dyspraxie en dessous, ou simplement une mauvaise déglutition. Mais vous avez aussi des enfants qui articulent très bien, mais qui ne savent pas organiser de la syntaxe et des phrases. Donc, c'est des petites différences de boutique, mais enfin, dans nos bilans, ce n'est pas pareil. La dysphasie, qui touche 1% de la population, qui est un trouble sévère de l'organisation du langage oral, c'est-à-dire que là, on a des preuves, on a quelque chose, on a le cerveau gauche qui montre des souffrances au niveau temporal. Le bégayement, le langage écrit, dysorthographie, dyslexie, dysgraphie, vous l'aurez compris, c'est un champ très large, mais on n'est certainement plus les seuls à agir là-dessus, puisque ça, ce sont les symptômes.
Oui, et donc voilà, je vais raconter l'expérience qu'on a au Pagote, où on travaille quand même bien en équipe, et que les enfants qui ont des troubles, par exemple, de langage, qui sont dysphasiques, qui ont un retard, qui ont le diagnostic est toujours difficile à poser, d'ailleurs, ils sont pris par différents intervenants, aussi bien par les logopèdes. J'insistais, Daniel m'avait envoyé cette DIA, et moi je me disais, mais la psychomotricité, on a eu tellement de résultats. Parce que dans le plaisir du jeu, dans le plaisir de courir, dans le plaisir de sauter, j'entends un l'air pour dire « Regarde, madame, regarde !» Et ou qui appelle « Madame, madame, tu m'attrapes !» Et c'est « Tu m'attrapes, tu m'attrapes !» Et là, on a vraiment les premiers mots. Je sais qu'on a eu un petit enfant, Kyle, pour ne pas le citer, où tout le monde se demandait « Mais il ne parle pas !» Et là, vous allez le voir plus tard dans les images, il demande, il raconte qu'il y a un fantôme, il y a un fantôme, et il court et il s'encourt. Donc dans le jeu, dans le plaisir, l'enfant a envie de s'exprimer. Et donc je voulais dire, voilà, parce que tu avais écrit le champ d'application de la logopédie, ce n'est pas que de la logopédie, mais c'est aussi indispensable, comme il y a différentes approches en psychomotricité. Ici, on est à la psychomotricité au couturier, mais il y a d'autres approches aussi qui peuvent aider. Je vous parlais évidemment de la psychomotricité au couturier, puisque nous sommes invités par la psychomotricité au couturier. Et c'est celle que je pratique et c'est celle où je suis à fond dedans. Mais donc voilà, ces différents intervenants, c'est très important. Et c'est pour ça aussi qu'on va faire ces soirées avec les optométristes, être ouvert à tout ce qui existe et s'entendre. Ce travail de multidisciplinaire ou interdisciplinarité.
Enfin, tout le monde travaille ensemble, quoi. Voilà.
Oui, voilà, exactement.
Alors, c'est pas tout. On travaille aussi sur la dyscalculie, les troubles de la voix, en parenthèse, beaucoup d'enseignants qui, à force de crier, ont des nodules. Rééducation de la dysphagie et de la déglutition, rééducation tubaire, c'est-à-dire ces enfants dont on va crier aux troubles du langage oral, alors que tout simplement ils n'entendent pas parce qu'on ne les mouche pas et qui sont en infection, en otite séromuqueuse pas toujours traitée et qui ont des comportements compliqués parce qu'évidemment ils sont fatigués et fatigants, ce qui va souvent ensemble. Ben oui, parce qu'ils ne sont pas bien. Ça, c'est nous. Enfin, c'est nous, mais vous avez compris toutes les réserves que j'ai mises à ça. Ceci dit, ça bouge. Hein. C'est la première année à Marie Abbs, d'où je suis issue quand j'ai fait mon graduat à l'époque, que je suis interpellée pour un mémoire, pour une logopède qui s'occupe sur les fonctions exécutives en calcul. Je pense que nous, on aurait fait ça, on était jetés. Donc, ça veut dire que ça commence à bouger, l'idée qu'on a chacun ses champs, mais qu'on ouvre les frontières, quoi, les grands temps. On ne va pas saucissonner l'activité cérébrale. Donc on va vite quitter ce champ-là. Les neuropsychologues. Moi, j'ai fait, après la logopédie, quand j'ai fait mes études, c'était possible de faire une passerelle. Ça va en Bologne, donc c'est ce que j'ai fait à l'époque. La neuropsychologie s'occupe plus spécifiquement des troubles de l'attention, de la mémoire. Alors les fonctions exécutives, c'est planifier, c'est se dire qu'est-ce que je fais dans l'ordre. Mais on sait par exemple chez les dyspraxiques que c'est ça le problème, c'est agir, c'est l'initiation, entre autres. Trouble des fonctions visio-spatiales, c'est-à-dire l'œil qui est incompétent ou qui est en difficulté pour regarder l'information et créer des images mentales suffisamment pertinentes. Ça peut se trouver dans les dyspraxies. Des troubles cognitifs divers, ça c'est, je connais beaucoup moins bien, j'ai un petit peu travaillé à l'ENOX, mais très peu. Ça c'est plutôt des troubles acquis. Et alors les épilepsies, qui dans certains cas sont à vérifier par des médecins pour les cas d'enfants qui sont en permanence distraits. Le retard mental et les hauts potentiels, mais vous voyez que les frontières ne sont pas très claires, parce que dans le haut potentiel, il y a des fonctionnements de comportement, il y a de l'apprentissage, il y a souvent des dyslexies, il y a souvent de la dysgraphie, parce que le cerveau va trop vite. Et donc, on ne peut plus... Alors, qui pose les fameux diagnostics, entre guillemets ? Le médecin généraliste, ben, c'est celui qui va être en alerte sur ce que la famille va dire, mais il ne prescrit pas. Le neuropédiatre, ça, certainement. Le pédiatre, le pédopsychiatre. Donc j'ai mis toute cette liste pour montrer à quel point des parents peuvent être perdus. Et que si ces gens ne se connaissent même pas, et ne connaissent même pas ce qu'ils peuvent s'apporter l'un à l'autre, moi je me mets à la place des parents qui ne sont pas du tout au courant de tout ça, mais je comprends qu'il faut statistiquement 3 ans pour commencer un travail. Hein. Alors nos outils, ben, ils sont divers. Alors, les tests. Ça, je vais m'en occuper une soirée là, dans les tables rondes qu'on va organiser, les séminaires, parce que là aussi, on doit changer. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des tests de déficience ? Ah, il a moins 4 écarts types en orthographe. Oui, et après. Il a un percentile 3 en calcul mental. Mais ce qui intéresse ceux qui sont chargés du développement, que ce soit les parents, les enseignants ou n'importe qui, c'est de savoir par où on peut passer. Alors les tests, c'est bien, mais il va falloir aller beaucoup plus loin. Le médecin, il peut demander un électroencéphalogramme, en partie, je vous l'ai dit, pour éviter de confondre du TDA avec de l'épilepsie. Parce que ça, c'est en recrudescence, et ça fait quand même chaque fois une petite cicatrice corticale qui n'est pas idéale pour mémoriser. Et puis, c'est pas du tout la même approche. Donc le médecin a des outils, mais faut bien reconnaître que c'est assez maigre en la matière. Les logopèdes ont leurs tests, des jeux, du matériel. Moi, je suis beaucoup dans l'ergonomie, c'est-à-dire que j'essaye toujours de trouver le matériel qui va faciliter la vie de l'enfant en classe. Ça, c'est plutôt... Mais bon, c'est vrai que comme tout thérapeute, on a une série de tests étalonnés pour mesurer les difficultés des enfants. Alors, les outils du psychomotricien, tu veux en parler parce que...
Donc, le NP-MOT, la batterie d'évaluation neuropsychomotrice, de Laurence Vèvre-Douret.
Ah ben oui, c'est la même. Tu dis ? C'est la même que celle qui a travaillé avec l'HP.
Oui. Et alors aussi, les observations de l'enfant en jeu spontané. Je crois qu'il y a une richesse incroyable d'observer l'enfant dans sa vie. Et c'est évident aussi que les profs ont une place extrêmement importante dans l'observation, dans des apprentissages, dans ce qu'ils relèvent. Donc, quand l'enfant accroche et quand l'enfant décroche,
absolument,
ses difficultés.
Alors, en tant que neuropsychologue, que fait-on ? La même chose, donc des tests. Ce que vous voyez à droite, c'est les fameux cubes de Coase, c'est une épreuve, c'est la première qu'on fait passer au QI. Des exercices de ciblage, d'attention, de go-no-go, de... En fin de compte, c'est vrai qu'une séance chez un neuropsychologue ou une séance chez une logopède, il faut vraiment le savoir. Alors, on ne travaille pas les mêmes choses, pas en même temps, mais c'est quand même beaucoup du jeu, de la mise en situation. Mais disons que les neuropsies vont plutôt travailler sur tout ce qui est mémoire et fonction attentionnelle. Alors, qui fait quoi, quand et avec quels moyens ? Alors ça dépend des écoles. Vous avez des thérapeutes qui vont surtout travailler en drill-jeu pour restaurer la fonction déficiente, mais je vous l'ai dit, c'est une approche qui est en train de passer un peu à la trappe. C'est-à-dire, bien sûr, qu'on doit travailler du contournement. Il faut trouver des moyens de sortir de la fonction déficiente, mais driller, ce sont des choses qui ne donnent pas grand-chose sur le terrain de l'autonomie. Alors, le travail sur le matériel scolaire, ça, c'est ce que j'adore faire, mais ça, c'est moi. Travail de guidance parentale, énorme. Le parent, c'est le premier acteur pour l'enfant. Parce que l'enfant, il va vite se rendre compte qu'il y a un enjeu d'amour là-dedans. Alors les parents s'en défendent. Mais non, mais enfin, mais on l'aime comme il est. Oui. Ben, en tout cas, ce n'est pas ce que je sens, moi. Bien sûr que vous l'aimez. Mais c'est le problème de la sécurité. Parent qu'on va convoquer pour dire que son enfant ne se développe pas comme les autres, il est en insécurité immédiate. Il aura exactement les mêmes comportements que l'enfant. L'agressivité, le repli ou l'attachement excessif à vous. Vous êtes le sauveteur. Ça, c'est ce qu'il y a de pire.
La culpabilité aussi.
La culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait ? Des gens qui me disent, c'est génétique, ça ? Puis qui se regardent. C'est pas un oncle à toi qui est un peu... Du matériel, évidemment, de psychomotricité, mais ça, vous aurez toute l'occasion de voir ça. C'est d'une richesse incroyable avec les films de ma collègue. Moi, je trouve ça extraordinaire.
Avec une plus matériel. Belle salle.
Oui, bah oui, qu'est-ce que tu veux Neuropsychologie, psychothérapie, parce qu'évidemment, quand on se bat toute la journée devant la non-compréhension de quelqu'un en face de vous et des petits copains, et puis tout se rejoue à la récré, c'est très violent. Mais c'est bien rare qu'un soutien psychologique ne soit pas, à un moment donné, nécessaire pour se reconstituer. Ça ne change pas l'état des enfants, ils restent dyspraxiques, ils restent dysphasiques, mais au moins aller déposer la souffrance. Et aller projeter ce que c'est dur de vivre comme ça. Alors, je ne veux pas sombrer dans le pathos. Hein. C'est des enfants qui ont des réserves extraordinaires. Et les exemples foisonnent de gens avec des gros troubles qui ont eu des destins fantastiques. Ce n'est pas ça. Mais même ces gens, je ne sais pas si vous avez vu des témoignages, c'est très en vogue, on en voit beaucoup, d'adultes bardés de diplômes ayant parfaitement réussi, qui pleurent en parlant de l'école. C'est à vie. Les prises en charge sont soit individuelles, c'est plutôt la tradition en logopédie, en graphomotricité, ou collective. Le collectif amène des avantages et des désavantages. Je dirais que l'avantage, c'est qu'on apprend bien qu'en groupe, puisqu'il y a un effet de mimétisme. Le désavantage, c'est que les troubles d'intégration sensorielle de ces enfants sont parfois tels que le groupe génère des problèmes qui ne sont pas générés quand ils sont tout seuls. Ce qui explique que quand on est en individuel, on peut rattraper pas mal de choses qui est tout simplement pas possible en classe. Alors la médication, je ne suis pas médecin, mais j'ai quand même ajouté... Alors effet immédiat, non, oui et non. Hein, c'est pas immédiat. Chez certains enfants, ça peut prendre un mois pour que la molécule agisse. Alors n'étant pas médecin, je ne vais pas me lancer, surtout que c'est très chaud, dans est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une mauvaise idée. C'est un professionnel qui doit s'en occuper, c'est un spécialiste en neuropédiatre. Je vois en tout cas deux choses qui m'interpellent. La croissance exponentielle de prescriptions, qui ne correspond pas à la croissance de la prévalence, ni du TDA, ni des troubles dans la population. Mais aussi, je ne voudrais pas être trop partisane, des enfants qui revivent parce qu'ils ont un traitement ajusté en rilatine, le temps de récupérer des moyens d'apprentissage. Et donc, j'ai pas de position sur le médicament, j'ai la simple position habituelle face au médicament, c'est que ce soit prescrit par des gens d'ancien métier, que ce soit suivi. Et je précise quand même que mettre les parents toujours dans la culpabilité de prendre des décisions, c'est très délicat, parce que je pense que beaucoup de parents qui mettent leur enfant sous rilatine ne font pas ça de gaieté de cœur. Et que c'est parfois après avoir tout essayé qu'on en arrive à donner un médicament dont on n'a pas encore vraiment... On commence à avoir du recul. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça doit être fait dans les règles de l'art et qu'on a des prescriptions de l'Organisme mondial de la santé qui encadrent ça de manière très précise.
En fait, je fais avancer parce que le temps passe.
Le temps passe. Il est moins 10. Mais ça, j'ai fini. C'est pas mal, hein. Donc moi, je vous reparlerai des outils, je vous montrerai quelques petites astuces qu'on peut déjà dire aux parents, déjà dire aux enseignants je vous ai dit, c'est parfois symbolique, mais ça change déjà pas mal de choses. Moi, je m'arrête là. Il y aura un temps pour les questions-réponses, mais il faut qu'on se tienne au cordeau des horaires. Donc on va faire la pause café maintenant. Si vous avez des questions, gardez-les au chaud. On va se donner un temps pour y répondre.
Voilà. Et alors on se retrouve à quelle heure? À
11h15.
Et voilà, vous avez eu la partie théorique la plus lourde. Après, vous aurez le résumé. Ah oui, j'avais pas mis ça.